Bonjour, merci d'être fidèle à Radio Okapi, le magazine Okapi Action, le dernier de l'an 2004 de mars. Une mission humanitaire a quitté Goma mercredi dernier dans la matinée pour se rendre dans la région de Kanyabayonga, à plus de 100 km au nord de Goma. Objectif, évaluer la situation humanitaire, planifier l'assistance, surtout, obtenir des garanties de sécurité pour les acteurs humanitaires. Qu'est-ce qu'il allait advenir de cette mission? On le saura tout à l'heure. À suivre dans Okapi Action, dernière édition de l'an 2004 aujourd'hui. Les médecins à Kinshasa toujours en grève. Vous le savez, les médecins réclament l'adoption d'un statut spécial pour eux, en tout cas dans le secteur public, en traitant de nombreux malades qui ne peuvent se faire soigner dans les établissements publics vont de plus en plus dans les hôpitaux privés. Illustration dans cette grève à suivre avec un reportage de Donna Madiba. Et puis il y a un jardin zoologique qui devient petit à petit repère pour des bandits, non seulement les spécimens, les espèces animales qui y étaient diminuées sensiblement, raccourcis pour la population qui relie notamment des quartiers Lido Golf et les centres-villes. Nous sommes à Lubumbashi. Malheureusement, parfois, par moments, ce lieu devient zone d'insécurité. Que faut-il faire pour sécuriser les eaux de Lubumbashi et lui redonner sa mission de garder des animaux? On saura avec notre confrère Jean Biandou de Lubumbashi, évidemment des experts de la gestion des eaux. Vous savez presque tout pour ce magazine, la dernière édition. Mimi Kinout est à la mise en onde. Donna Madiba fait les premières minutes de la régie. Jolie Malivoto va arriver. Au micro, c'est Walter Moulondi qui vous présente une mission humanitaire à quitté Goma mercredi dernier dans la matinée pour se rendre dans la région de Kanyabayonga, entre Kanyabayonga et Lubero. L'objectif, c'était d'évaluer la situation humanitaire, planifier l'assistance et surtout obtenir des garanties de sécurité pour les acteurs humanitaires. Au moins 100 000 personnes ont été affectées par les récents combats entre l'armée régulière de la République démocratique du Congo, les forces armées de la RDC et des soldats mutins de la 8e région militaire, appuyés par des éléments de pays étrangers dont le Rwanda. Nous avons joint notre confrère Moïse Mutunga qui a fait le déplacement dans la zone. Moïse Mutunga.
Maintenant, je me trouve à Lubero Centre. Walter, vraiment, c'est la misère totale. Ceux qui ont déjà regagné leur village n'ont rien dans les deux parties, c'est-à-dire partie FARDC et FCANC. Pas de nourriture et n'ont pas accès même au champ de peur d'être violés, comme déclarent certaines femmes de Kirumba et de Kanyabayonga. Aucune présence d'une activité. Les villages sont presque déserts. La population rentre timidement dans les villages. Elle a peur encore de la présence militaire, surtout du côté des FARDC, où il y a une forte présence militaire bien équipée. Ils ne savent pas à quand ces militaires pourront libérer des maisons occupées. Du côté des FCANC, la population ne parle pas le même langage à Kanyabayonga. Certains disaient, journalistes, dès que vous quittez ce lieu, nous pouvons être arrêtés à partir des interviews vous accordées. Mais nous sommes obligés de vous dire toute la vérité.
Vous dites que les populations ne voulaient pas se prêter au micro, mais ils vous disaient quand même toute la vérité. C'est laquelle cette vérité qu'ils vous disaient? Notamment ce qui concerne les rapports entre les civils et les militaires. Est-ce qu'on a déploré des cas d'exactions sur les civils, par exemple?
Oui, oui, les maisons sont cambriolées pendant la nuit, c'est ceux qui ont laissé les histoires dans la maison, les histoires volées, et en tout cas, et puis il y a des arrestations chaque fois au niveau de Kanyabayonga, là où j'ai eu des interviews avec la population.
On sait aujourd'hui que les forces militaires qui occupent Kanyabayonga, ce sont les éléments ex-ANC.
Oui, oui, ex-ANC.
Mais du côté des villages où se trouvent les troupes des forces armées de la République démocratique du Congo, est-ce qu'on vous a rapporté la même situation concernant notamment peut-être des exactions contre les civils?
La population n'est pas tellement visible aussi dans ces villages. Et c'est presque la même chose, c'est presque la même chose, Walter.
Moïse Mutunga, vous vous trouvez actuellement à Lubero à la faveur d'une mission humanitaire qui s'est déployée, qui est partie de Goma. Cette mission est constituée de la MONUC, de OCHA et de Caritas. Pouvez-vous nous dire un mot sur le but de cette mission?
Oui, elle est dans la région pour évaluer la faisabilité d'aider la population victime de la guerre de Kanyabayonga. Et en plus, prendre des contacts avec les autorités militaires des deux parties, c'est-à-dire celles des FARDC et des ex-ANC, appelés ici insurgés par la population, afin de faciliter leurs partenaires sur le terrain dans les jours qui viennent.
Donc, on peut dire que c'est une mission de préparation d'une grande intervention humanitaire en faveur des populations. Vous avez rencontré quelques habitants aussi bien à Lubero, Kirumba que Kanyabayonga. Quelles sont les attentes des habitants de ces zones frappées par les récents affrontements?
Walter, d'abord, laisse-moi vous dire que dans la partie contrôlée par les ex-ANC, appelée et insurgée par les habitants de Kanyabayonga, cette population dit qu'elle est prise en otage. Leurs maisons sont cambriolées chaque nuit. Les femmes n'ont pas accès aux champs de peur d'être violées. Du côté des FARDC, les maisons sont occupées par ces militaires des FARDC le long de la route Lubero-Kanyabayonga. Ce sont les nouvelles troupes envoyées en renfort pour remplacer les militaires du MRC actuellement des FARDC, mais qui ont fui des combats Kanyabayonga, Walter. Les FARDC ont érigé une barrière à l'entrée de Lubero pour désarmer et arrêter tous les fuyards. Les objets volés sont confisqués et restitués aux propriétaires par l'état-major des FARDC basé à Lubero, Monsieur Walter.
Donc ça c'est une réponse à presque au rapport qu'il y a entre la hiérarchie militaire et les populations en vue de leur restituer leurs biens. Quelles sont les attentes des habitants vis-à-vis de cette mission mixte des Nations Unies avec la Caritas? Comment les populations voient la préparation de cette mission?
Oui, la population dit que il faut d'abord vraiment la sécurité. Il faut d'abord la sécurité. Parce que sans sécurité, c'est rien. Donc les efforts des humanitaires vraiment risquent d'être nuls.
Okapi Action 081 89 0 68 90. Okapi.
Au Capi Action, nous restons encore dans la zone de Kanyabayonga, entre Kanyabayonga et Lubero, pour évoquer cette autre question de la zone tampon. Vous le savez, la MONUC a imposé une zone tampon dans la région. Qu'est-ce que certains habitants qui sont revenus timidement dans cette partie de la République démocratique du Congo pensent de la zone tampon? Moïse Mutunga est sur place à Lubero. Moïse Mutunga.
Walter, la population interrogée à ce sujet dit que la zone d'abord tampon est presque inexistante. Elle justifie les réponses par la présence encore visible des troupes des ex-ANC dans cette zone. Une zone où nous pouvons voir la présence de la MONUC au nord et au sud du village de Mihobwe, où je vous ai dit au nord de Kirumba, où il y a les troupes de FARDC. Donc les nouvelles troupes de FARDC qui ont remplacé les troupes de MRC actuellement de FARDC qui ont fui les combats à Kanyabayonga. Alors une situation selon la population qui pourra bloquer les efforts des humanitaires dans cette région vraiment Walter Mulondi.
Nous avons appris que, à la faveur d'une accalmie, il y a des habitants qui commençaient à revenir, notamment à Kanyabayonga. Est-ce que, lorsque vous êtes arrivé dans cette cité, vous avez vu une certaine activité autour du marché, notamment autour des paroisses religieuses?
Oui, oui, j'ai vu le petit marché, donc au marché là, il y a quand même certains articles qui sont déjà étalés là-bas, et il y a d'autres où ils ont récupéré quand même quelque chose dans leur boutique, malgré le pillage, ils étalent là-bas, et il y a même certains militaires qui sont en train aussi d'étaler leurs histoires, tout ça, mais vraiment, les marchés étaient timides.
Comment on peut comprendre que les militaires qui sont presque sur un champ de bataille commencent à étaler des choses à vendre?
Oui, oui, ce sont les histoires pillées. Ce sont les histoires pillées et la population elle-même le témoigne.
Peut-être une dernière question. Est-ce que vous avez parlé de bonne année avec certains habitants de Kirumba, de Kanyabayonga ou de Lubero?
Bonne année, vraiment là on ne peut pas parler de bonne année parce que vraiment c'est horrible, ils n'ont rien à fêter. Et j'ai parlé à quelqu'un de Kirumba par exemple, un papa qui a perdu ses deux enfants et jusqu'à présent sa femme reste toujours introuvable. Il m'a dit que comment nous a depuis le matin jusqu'à à présent, donc c'était vers 13h, jusqu'à présent, je n'ai rien à manger et on ne sait pas même comment fêter tout ce que j'avais, parce qu'il était commerçant, j'ai perdu et je ne sais pas comment vraiment boucler l'année 2004. Vous voyez combien de fois, vraiment, c'est les habitants de Kirumba, de Kanyabayonga ou de Alimbongo, je ne sais pas comment ils peuvent vraiment fêter.
Moïse Mutunga, je rappelle à nos auditeurs que nous vous appelions à partir de Lubero, que vous avez suivi donc cette mission d'évaluation entre la MONUC, le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, et la Caritas. Nous aurons un peu plus de détails tout à l'heure, dans quelques instants, avec M. Patrick Lavandhomme, responsable du bureau des OCHA pour le Nord Kivu. Moïse Mutunga, merci beaucoup pour toutes ces informations. Surtout, faites très attention à vous.
Walter Mulondi. Merci beaucoup.
Nous aurons dans quelques instants Monsieur Patrick Lavandhomme qui coordonne les opérations humanitaires dans la province du Nord Kivu, qui était d'ailleurs le chef de la mission à laquelle Moïse et moi faisions allusion tout à l'heure. On aura les réponses. D'abord, une évaluation de la situation telle qu'elle se présente actuellement et principalement, ça c'est le plus important, la stratégie d'assistance qui doit être déployée incessamment. Déjà, il y a quelque chose qui est en train d'être fait. Mon compatriote qui malheureusement ploie sous les méfaits des récents affrontements à Kanyabayonga autour de Kirumba. Depuis 2 semaines, ils vivent à la Belle Étoile. En refuge, ils ne vivent plus chez eux. Nous allons essayer d'avoir, si vous voulez, une carte postale de la situation humanitaire telle qu'elle prévaut là-bas. C'est à la suite d'une mission qui s'est rendue mercredi dernier de la matinée à Lubero. Elle est descendue à Kanyabayonga pour évaluer la situation humanitaire, planifier l'assistance et surtout obtenir des garanties de sécurité pour les acteurs humanitaires. On va suivre tout à l'heure, dans quelques instants, des précisions avec Monsieur Patrick Lavandhomme. Patrick Lavandhomme est le chef du Bureau des coordinations des affaires humanitaires, le Bureau du Nord Kivu. Patrick Lavandhomme, première question, quelle est la situation humanitaire dans la zone?
Oui, merci. En fait, la problématique peut se résumer, je dirais, en 5 situations différentes qu'on a pu observer sur le terrain. D'abord, premièrement, certaines villes et villages sont toujours complètement vides de leur population, avec absolument aucune personne qui ne sont encore rentrées. La deuxième situation, c'est que on a déjà observé des personnes qui, pendant la journée, viennent timidement observer la sécurité dans leur village, voir qu'est-ce qu'il en est advenu de leur maison, et puis rentrent le soir se cacher dans la forêt. Il y a également, en troisième situation, des populations qui ont commencé timidement à rentrer chez eux et qui passent maintenant la soirée chez eux, mais ont toujours une très grande peur due à l'insécurité. Ensuite, nous avons des situations où des populations sont déplacées et ont trouvé des familles d'accueil dans certains villages et vivent tant bien que mal avant que la sécurité retourne chez eux. Et finalement, on espère que à un certain moment où les mesures sécuritaires et la sécurité des civils sera assurée, qu'on pourra alors assister à des retours massifs des populations chez eux.
Il y a donc cet espoir de retour massif, mais vous avez mentionné un retour timide dans certains villages. C'est dans quel village, par exemple?
Alors écoutez, pour ce qui est des villages de Kanyabayonga, Kaina, Kirumba, on a déjà observé, je dirais, 15 à 20% des personnes qui sont rentrées. Par exemple, à Kirumba, il y a un léger recommencement du marché qui fonctionne. Seulement, il faut savoir que beaucoup de ces gens ont encore des problèmes de sécurité et on a rapporté aux humanitaires encore des exactions, des violences sexuelles sur les femmes et des pillages aussi qui continuent malgré le courage de ces gens de rentrer chez eux.
Alors, Patrick Lavandome, la mission que vous effectuez maintenant vous permet évidemment d'évaluer les besoins sur place. Est-ce qu'il vous est possible de nous dire un mot sur peut-être la planification d'une intervention humanitaire urgente pour ces populations?
Absolument. Bon, le premier besoin sur lequel les humanitaires vont répondre est évidemment le problème de soins de santé. D'abord, beaucoup des centres de santé ont été fermés ou bien même pillés avec les pharmacies qui ont été vidées. Donc il y a un système de cliniques mobiles qui a été mis en place avec des soins pour les malades par Médecins Sans Frontières. Il y a également l'UNICEF, Solidarité et sans doute Caritas dans la suite qui vont fournir des médicaments à ces centres de santé qui pourront recommencer. En plus de ça, vu que ces populations ont quand même vécu depuis un certain temps dans les forêts, Solidarité et l'UNICEF vont distribuer des biscuits protéinés dans ces structures de santé, afin que les gens qui viennent pour se faire soigner puissent recevoir un apport supplémentaire en protéines. Par la suite, la réponse va pouvoir s'élargir, par exemple, aux personnes déplacées. Je prendrai comme exemple ici à Lubero, il y a un certain nombre de familles qui se sont déplacées jusqu'ici, et l'ONG World Vision a commencé leur recensement et leur donner une certaine assistance afin de leur permettre de continuer à vivre dans des situations dignes avant de pouvoir rentrer chez eux. La deuxième phase de la réponse humanitaire consistera à des enregistrements par rapport aux besoins des bénéficiaires et à des distributions plus larges de nourriture, de nouveau qui pourront se faire avec la Caritas, avec Action Agro-Allemande et l'assistance du PAM, et également des distributions de kits de non-vivres pour certaines personnes qui ont eu l'ensemble de leurs biens qui ont été pillés. Maintenant, le premier souci qui ressort de cette mission parmi les discussions avec les populations, c'est qu'ils demandent une chose, c'est la sécurité. Et j'insiste là-dessus. Plusieurs personnes nous ont même dit, écoutez, c'est gentil de venir essayer de nous assister, de nous donner des choses, mais avant tout, nous voulons la sécurité. Nous voulons que les militaires, les hommes armés arrêtent de violer nos femmes et arrêtent de venir piller dans nos maisons.
Patrick La Vendôme, à une demande comme celle-là, vous, acteur humanitaire, qu'est-ce que vous avez répondu?
Alors écoutez, c'est justement le rôle que OCHA a entamé dans un plaidoyer actif auprès des autorités militaires de toutes parties, à savoir réinsister sur le principe de la protection des civils et réinsister sur la protection également des humanitaires pour pouvoir travailler. Je dois dire que j'ai été heureusement surpris de voir certaines mesures à Lubero qui ont été mises en place afin d'arrêter les militaires qui ont pillé et qui ont fui, ces militaires qui ont également violé. C'est avec une certaine satisfaction que nous avons observé des mesures concrètes mises en place par les FARDC de ce côté, afin de prendre des mesures très fortes et des répressions très fortes sur ces militaires pillards. De l'autre côté, on a eu des garanties verbales de la part des soldats FARDC ex-ANC tels qu'on les appelle, comme quoi également ils prendront des mesures, mais nous n'avons pas encore vu de choses concrètes sur le terrain. À ce titre, un plaidoyer va continuer de manière active dans la zone.
Patrick La Vendôme, chef de bureau du bureau des coordinations des affaires humanitaires, OCHA, bureau du Nord Kivu, et puis chef de la mission d'évaluation, s'est rendu à Kanyabayonga et Lubero. C'était depuis mercredi dernier, il nous faisait un résumé de l'évaluation qui a été faite. Nous allons clôturer cette évaluation humanitaire avec Monsieur Patrick La Vendôme en se posant cette autre question. Vous avez entendu tout à l'heure les points de vue des quelques habitants rencontrés, notamment à Kanyabayonga et Lubero, sur l'effectivité de la zone tampon qui a été imposée par la MONUC. L'objectif, c'était notamment de pouvoir offrir un couloir humanitaire, ce qui permettrait aux acteurs humanitaires de pouvoir évaluer d'abord la situation et puis planifier des interventions en faveur des populations qui ont besoin de cette assistance. Rappelons que c'est près de 100 000 personnes qui ont été affectées directement ou indirectement par ce conflit à Kanyabayonga. Depuis ces deux semaines, c'est à la faveur d'une accalmie et de cette zone tampon que cette mission, par ailleurs, a été possible. Alors, Patrick La Vendôme, est-ce que les acteurs humanitaires, je veux dire, peuvent-ils déjà se satisfaire des résultats de l'instauration de cette zone tampon, Patrick La Vendôme?
C'est une question un peu difficile, dans le sens où, pour l'instant, cette zone tampon, d'après les humanitaires avec qui nous avons parlé et nous-mêmes notre observation sur le terrain, n'est pas fortement visible. Maintenant, il est sûr qu'il y a des arrangements militaires qui ont été faits entre la MONUC et les différentes parties liées au conflit. On espère, comme la MONUC l'a dit, qu'elle continuera à étendre cette zone tampon et permettre une sécurité plus large pour les civils.
Est-ce que vous avez obtenu, vous, humanitaire, des garanties de sécurité de part et d'autre des parties au conflit?
Absolument. Toutes les parties liées au conflit nous ont garanti une circulation libre dans pratiquement l'entièreté des zones. Il est sûr qu'il y a certaines zones où la situation est encore floue et on a déconseillé aux humanitaires de pouvoir aller travailler. Sinon, par exemple, le plan de OCHA de pouvoir aller installer une maison humanitaire à Kaina a été très bien accueilli par les parties qui contrôlent cette zone. Et de l'autre côté, ici, il y a vraiment une sécurité que l'on sent lorsque l'on travaille sur le terrain.
Et voilà, Patrick La Vendôme, est-ce que cela laisse-t-il espérer que finalement les humanitaires sont en train d'obtenir peut-être des meilleures conditions en vue de pouvoir assister les bénéficiaires, les populations déplacées?
Écoutez, je voudrais quand même, par rapport à ça, dire que c'est vrai qu'il y a un certain effort par rapport à il y a une ou deux semaines. Toutefois, la situation reste encore trouble et je voudrais ici insister pour que des solutions politiques et militaires puissent mettre un fin absolu à cette problématique ici.
Oui, c'est ça effectivement la solution durable. Cela va être ma dernière question, Monsieur Patrick La Vendôme. Est-ce que parallèlement à ça, êtes-vous informé qu'il y a des efforts de pacification durable dans la zone?
Alors écoutez, le mandat d'OCHA, est un mandat de plaidoyer pour la protection des civils et de coordination au niveau de l'assistance humanitaire. On ne nous a pas encore mis au courant d'efforts et de solutions qui auraient été trouvées, mais on ne peut que espérer que les parties responsables prennent leurs responsabilités en main pour terminer ces problèmes.
Voilà, Monsieur Patrick Lavandome, je rappelle à tous nos auditeurs que vous êtes le chef du bureau de coordination des affaires humanitaires basé à Goma, que nous parlons avec vous depuis Lubero où vous supervisez une mission d'évaluation. Nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions et vous souhaitons plein succès dans la réalisation de cette mission et vous souhaitons en passant de passer une excellente fête, des bonnes années et dans l'accomplissement de votre apostolat.
Merci bien et une bonne année à tous les Congolaises et Congolaises. Merci.
Merci Patrick Lavandome.
Merci, au revoir.
Au revoir. Les gens raisonnables, c'est comme tous ces acteurs humanitaires qui vont dans les zones les plus terribles pour porter secours aux personnes qui ont besoin d'aide. C'est aussi tous ces humanitaires qui se mobilisent aujourd'hui pour aller notamment dans l'océan Indien, vous le savez, ce séisme qui a fait plus de 120 000 morts hein, à la suite de la marée qui s'en est suivie. Ça c'est dans un autre continent, une autre catastrophe qui se passe ici chez nous, c'est malheureusement du fait des hommes qui imposent une guerre à des habitants qui attendaient paisiblement de passer les fêtes de fin d'année comme tous les autres. Oh, quel dommage que ceux qui vivent à Kanyabayonga, ceux qui vivent à Kirumba, ceux qui vivent à Limbongo, ceux qui vivent à Kaina, vers Lubero, ne peuvent pas jouir ou fêter, et comme d'autres gens pourraient le faire, la plus grande fête ne serait-elle pas simplement la paix, mais rien que la paix, au-delà de la bouffe ou de la bière que l'on pourrait utiliser, la plus grande fête aurait été pour eux, et rien que pour eux, la paix. D'ailleurs, Patrick Lavandome nous l'a dit tout à l'heure, lorsqu'il a rencontré des gens qui leur disaient « Merci beaucoup d'avoir essayé de venir nous porter secours, mais ce dont nous avons le plus besoin, c'est la paix. » Quelle belle demande, au-delà de l'assistance que les gens pourraient avoir. On essaye de trouver un autre intervenant, un représentant de la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo. Ce serait M. Delphin Munyomo, qui est à Goma et qui a fait des missions probablement à Kanyabayonga. Et c'est avec lui que nous allons passer la suite de l'émission. Monsieur Delphin Munyomo, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes président de la Croix-Rouge de Goma. Vous êtes rendu récemment à Kanyabayonga. Qu'est-ce que vous, la Croix-Rouge Nord-Kivu, principalement Goma, êtes-vous en train de, pensez-vous faire pour les habitants de Kanyabayonga?
Pour votre correction, je suis le président, pas du Nord-Kivu, mais de Goma, de la province du Nord-Kivu. Et moi, je ne me suis pas rendu à Kanyabayonga. J'ai envoyé une équipe à Kanyabayonga sur demande de la Monique qui a découvert Kanyabayonga. Il y a des cadavres non encore enterrés. Alors, on devrait, pour prévenir les épidémies, on devrait envoyer une équipe pour assainir les milieux.
Est-ce que vous avez réussi à contacter l'équipe que vous avez envoyée à Kanyabayonga? Quel rapport vous ont-ils donné?
Je viens d'être en contact avec eux ce matin. Juste avant vous, ils ont amené des matériels pour assainissement, mais les matériels sont à court de matériel, tellement qu'ils sont partis avec un seul véhicule. Ils avaient amené 50 bottes vagues et puis 50 couvertures pour les morts, mais ils sont à court de tous ces matériels. C'est qu'ils doivent faire encore une mission secondaire après le fait.
Alors, dites-nous, Delphin Munyomo, ils vous ont dit, ils ont enterré combien de corps à Kanyabayonga?
Ah, je vous dis qu'ils ont amené 50 body bags, c'est que quand ils disent qu'ils sont à court, c'est qu'il y a seulement 50 cadavres enterrés. et ils ont amené 50 couvertures. Tout est terminé. Nous devons, avec les CIC, faire un autre convoi d'ici le 4.
Au-delà de cette opération qu'on sait très importante lorsque des crises surviennent, c'est vrai qu'il faut enterrer très rapidement les corps pour éviter des épidémies, mais il y a aussi cette autre question de l'accès à l'eau potable pour les quelques habitants qui sont rentrés à Kanyabayonga. Est-ce que vous avez eu des informations par rapport au point d'eau disponible?
Je crois qu'ils seront ici ce soir. Là, vous voyez qu'au téléphone, avec nos maîtres de moyens, terminer les rapports au téléphone, c'est très difficile. Je sais que de leur retour, d'ici demain, on aura tous les atouts, tous les nécessaires pour pouvoir vous donner les rapports convenablement.
Les habitants qui vivent à Kanyabayonga maintenant, qui sont rentrés, très peu de personnes par ailleurs, selon nos informations, sont en train de nous écouter et de vous suivre maintenant. Vous qui êtes de la Croix-Rouge, qui êtes habitué à intervenir pendant des situations particulièrement difficiles, quels sont les conseils que vous pouvez leur donner en ce qui concerne notamment les règles d'hygiène élémentaire à observer pour les points d'eau et éviter de se faire contaminer?
Vous voyez que sans eau, pour le moment, avec l'hygiène, c'est difficile. Hein? Alors, le problème de l'eau, il faut que les gens se lavent les mains avant d'aller, après avoir allé à la toilette, il faut se laver les mains. Et avant de manger, il faut toujours se laver les mains. Après avoir mangé, il faut se laver les mains. Je crois que c'est le principe élémentaire d'aujourd'hui.
Delphine Mounyomo, puisque ces populations parlent plutôt swahili, est-ce que vous pouvez leur répéter ça en kiswahili? Wale wakaji wa Kanyabayonga ambao wamerejea mji na kuishi katika haya matatizo, kuhusu tuseme namna ya kukinga afya yao, unaweza kuwashauria nini wafanye makusudi wasije wakashikwa na magonjwa?
Hygiene ya leo ni watu wanapaswa kunawa mikono wakati natoka kutoilette, na kunawa mikono mbele ya kukula na kisha kukula. Alors, kama wakaheshimia ile, ni sherti watakuwa protege na magonjwa yenye ya mingi mingi itakuwa juu ya usafi, nani ya uchafu wa mkono.
Bwana Delfe Munyomo, hivi wakaji wa Kanyabayonga na kando kando ambao wanatusikiliza sasa hivi, huenda wakikuta maiti ya mtu ambaye aliuawa katika yale mapambano, wafanye nini wakikuta mwili wa mtu ambaye yuko barabarani au katika sijui msituni, sijui wapi, wafanye nini?
Nadhani wakakuta maiti inakwisha, inapaswa tangu vita ilianza, maiti inapaswa kuwa decomposition. Wasiguse kama wako pembeni ya choka, par exemple, so choka, wanaweza kukamata choka, wanafunika, wanatia juu ya maiti, wasiguse maiti. Ekipi ya Croix Rouge iko pale juu ya kutaka kumaliza kuaranje ili vitu yote kunani kuatenir milia ya Kanyabayonga, wasiguse.
Delphine Mounyomo vient de dire en swahili un conseil aux habitants qui sont en train de revenir dans les villages, en disant que si par hasard ils rencontrent un corps en décomposition, qu'ils ne touchent pas au corps, mais qu'ils s'adressent aux éléments de la Croix-Rouge du Congo qui ont une certaine quantité de chaud. Il faut réverser le chaud sur le corps en attendant que les éléments de la Croix-Rouge viennent avec des équipements appropriés pour enterrer le corps. Delphine Mounyomo, une dernière question que je vais vous poser. Vous pensez que c'est cette mission, la seconde mission supplémentaire que vous avez mentionné tout à l'heure, va être menée sur Kanyabayonga quel jour?
Vous voyez que nous, celui qui nous a pris, c'est le CIC. Et le CIC, toutes les personnes sont en congé jusqu'au 4. C'est que du coup, les 5 et les 6, une équipe devra encore redescendre sur Kanyabayonga.
Voilà, Monsieur Delphin Mounyomo, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes représentant de la Croix-Rouge à Goma, que vous avez envoyé une équipe avec la délégation de la MONUC, des OCHA et de Caritas sur place à Kanyabayonga pour évaluer la situation actuellement sur terrain. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes, de bonne année à Goma et surtout plein succès dans la réalisation de vos missions. Merci beaucoup.
Je vous remercie aussi, merci.
Au Capi Action, la deuxième partie du magazine, nous commençons par cette situation qui perdure depuis au moins 2 mois. La grève des médecins du secteur public, elle continue. Il n'y a toujours pas de réponse du gouvernement. Les médecins réclament l'adoption d'un statut spécial à leur faveur, en traitant de nombreux malades qui ne peuvent pas se faire soigner dans les établissements publics, vont de plus en plus dans les hôpitaux privés. Et puis certains malades qui arrivent dans certains établissements hospitaliers traînent avant d'être reçus par le personnel médical. Nous allons écouter ce reportage. Donna Madimba s'est rendue dans quelques établissements hospitaliers. La première personne à rencontrer s'appelle Julia. C'est une fille. Elle est malade.
Comment on va Julia?
Docteur Ali Chouviazani.
Bon, on a mon docteur, tu as besoin d'avoir un résultat, mais d'ici là, on peut s'en aller pour la zone.
À peine midi, ce 30 décembre 2004, au Malema Medical Center, l'hôpital privé situé au croisement boulevard du 30 juin, avenue Colonel Mondjiba, une atmosphère d'inquiétude.
Les fièvres, les rhumes,
c'est anormal pour une personne.
Ces patients, une cinquantaine environ, des femmes en majorité, présents ce jour-là dans la salle d'attente de Malema Medical Center, attendent avec une impatience perceptible des solutions pour la santé de leurs enfants. Des soucis sans doute compréhensibles, mais en majorité, selon Dr Claude Kabala, médecin généraliste et chargé de la permanence au MNC ce jour-là, il ne s'agit que de pathologies courantes.
Dans notre milieu, la première pathologie, c'est le paludisme. Hein, et puis, il y a l'épidémie de grippe qui va vers la fin. Et les enfants qui font des bronchites, des choses dans ce genre-là. Évidemment aussi, les femmes enceintes qui viennent accoucher.
Mais s'agit-il d'une intensité de travail connue d'ordinaire au Ngalema Medical Center? Docteur Kabala estime que non.
Je n'ai pas compté, mais ils sont nombreux, plus que d'habitude. Comme vous savez, les confrères du secteur public sont en grève pour des revendications normales et légales. Alors les patients sont obligés de se rabattre dans le privé. On a un peu plus de patients qu'habituellement. Je suis là depuis 7 heures du matin. Je crois qu'on avoisine déjà les 60 patients. Alors qu'en général, vers midi comme ça, on est autour de 25-30 quand il y en a beaucoup. Donc on a pratiquement le double. Et je ne suis pas le seul à consulter. Donc l'autre aussi doit avoir un nombre aussi élevé.
On est en effet arrivé au 40e jour d'une grève observée depuis le 20 novembre 2004 par les médecins du secteur public. Ce personnel expert de santé exige un statut spécifique pour leur corps professionnel. Et pour raison, Dr Wai, médecin à la clinique Ngalema et président du syndicat local, le dit.
Aujourd'hui, si le médecin commet une infraction, il est poursuivi par ces 3 juridictions. Donc sur le plan disciplinaire, au niveau de l'institution là où il travaille, sur le plan déontologique, c'est-à-dire que par l'ordre qui le régit, l'ordre médecin, et sur le plan juridique, vous comprenez? Donc le médecin n'est pas un vulgaire homme qui, qu'on peut... Donc vous voyez que ces 3 dimensions font du médecin un homme pratiquement, qui exige que le médecin soit un parfait homme. Alors quand vous demandez un effort comme ça à un médecin, il faut quand même qu'il y ait une récompense quand même. Et ce n'est pas une récompense comme une faveur, mais une récompense de droit.
12h, bientôt 40 minutes, retour au Ngalema Medical Center, où peu de temps après, une femme, mère de 2 jumeaux, entre dans le bureau du docteur Kabala.
Les enfants.
Les 2 enfants déjà?
Oui, les deux jumeaux.
Qu'est-ce qu'ils ont, les enfants?
Les fièvres, les rhumes.
Le médecin, très courtois, mais visiblement plus préoccupé par les patients, nous demande de quitter son bureau et ferme la porte. Après une demi-heure d'attente, nous quittons définitivement Galima Medical Center. Mais dans la salle d'attente de cet hôpital, la quiétude n'est pas encore complètement revenue. Et les gens continuent d'accourir à la réception.
Nous avons 10 chambres. 10 chambres avec 22 lits. Puisque la chambre 15 est considérée comme la chambre.
Et voilà, une visite guidée, un constat d'un afflux de beaucoup de malades dans les établissements médicaux privés. Les médecins du secteur public sont en grève pour commenter cette situation qui défraie encore la chronique à Kinshasa. Nous avons en studio Dr Mankoy. Dr Mankoy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin, vous prestez à l'hôpital général de Kinshasa. Nous vous recevons en votre qualité non seulement de médecin, mais aussi, surtout, de secrétaire exécutif provincial du syndicat national des médecins pour la ville de Kinshasa. D'abord, des nouvelles, des négociations, des tractations, où est-ce qu'on en est aujourd'hui?
Bon, on est au point de départ parce que je dois seulement vous informer l'opinion que le médecin attendait la prime hier et que la prime n'est pas arrivée. On a expliqué au médecin que le gouverneur de la Banque centrale n'a pas donné l'ordre de décaissement. Alors, à l'heure qu'il est, je ne sais pas ce qui se passe dans toutes nos sections, mais nous leur avions demandé de rester en assemblée générale et d'attendre les dernières instructions que nous recevrons du gouvernement. Ça fait pratiquement plus de 72 heures que nous, les délégués, nous sommes au ministère de la Santé publique et à la Banque centrale. Et la situation n'est pas toujours décantée. Pour l'instant, je ne sais pas vous donner la position du médecin parce que ça viendra toujours de la base. Et probablement, si la situation ne s'arrange pas, nous allons nous retrouver avec tous les sectionnaires vers 16h-17h pour faire le point.
Aujourd'hui donc.
Aujourd'hui, au siège de l'ordre de médecins.
Mais alors, pour revenir au reportage que nous venons d'écouter, il y a cet afflux des malades vers les cliniques privées et les médecins, visiblement assez débordés, quand même vous avez entendu vos confrères le dire, le reconnaître.
Oui, ça c'est évident. C'est évident parce que en réalité, la population ne le sache pas. Je pense que 75% de malades se font soigner dans les institutions publiques. Et que maintenant, comme dans les institutions publiques, il y a un travail minimum, ça fait que la plupart des malades qui ont de petits problèmes, je parle bien de petits problèmes, parce qu'il y a des centres privés qui peuvent aller jusqu'à faire de grandes interventions chirurgicales, qui sont bien équipés. Ça, je ne le dis pas, Galima Center, Centre Nganda, il y a Centre Mamalelo. Ça, ça ne pose pas de problème. Mais les autres, parce qu'aller dans ces centres privés, ça demande aussi que la poche soit bien fournie.
C'est plus cher.
Et c'est plus cher. Alors, en ce moment-là, le malade sont un peu désaxés. Mais en fait, le malade qui a le problème où la vie est en danger, où les malades, ce que nous appelons les urgences, ils sont très bien reçus. Ils sont reçus dans nos salles d'urgence. Peut-être ça prend beaucoup de temps. Ça c'est un. Et en urgence ou pendant les permanences, nous hospitalisons les malades qui nécessitent l'hospitalisation. Et ils sont suivis au pavillon parce qu'on laisse, bon, en réalité, ça fait un travail de plus pour le médecin, mais on laisse toujours un médecin par pavillon pour suivre le malade qui sont hospitalisés. Parce que là, le médecin a déjà pris un engagement. Quand vous hospitalisez un malade, vous aviez pris un engagement avec lui. Si nous voulons nous en séparer, ce serait dans les conditions prescrites par la loi. C'est-à-dire, il faut signifier au malade que maintenant, nous allons effectivement faire une grève blanche, donc nous sommes obligés de faire sortir les malades et de les orienter ailleurs.
Est-ce que vous pensez que à l'allure où vont les choses, vous risquez d'arriver à une grève blanche? Parce qu'actuellement, c'est pas une grève blanche, il faut le dire.
Vous savez, être médecin, c'est un peu difficile. Nous ne travaillons pas sur des machines, nous ne travaillons pas sur le papier, nous travaillons sur des hommes. Et c'est une très grande responsabilité. Avant de prendre une telle décision, il faut vraiment bien analyser la situation et revoir tous les contours. Je sais que les gens qui nous suivent, le médecin qui nous suivent, peuvent réagir un peu autrement. Mais vous savez, contenir les gens pendant plus de 40 jours, pour une grève, ce n'est pas peu de choses. Mais j'ai l'impression que du côté du gouvernement, on fait un peu traîner le temps, les pas. Parce que, à l'heure qu'il est, je ne sais pas vous donner les conclusions qui seront tirées ce soir. Ce que je vais dire aux médecins, le fonctionnement du gouvernement ou des institutions ont leurs principes. Parce que, en fait, depuis le 29 décembre de ce mois, nous avions déjà reçu l'ordre de paiement du ministère des Finances.
Non, le ministère des Finances a libéré l'ordre de paiement.
Oui, nous avions déjà reçu l'ordre de paiement du ministère des Finances. Et hier, on avait reçu l'attestation de l'ordonnateur délégué du gouvernement. Mmh. On nous disait, c'est depuis avant-hier, qu'on avait déjà prévu l'argent pour payer les médecins. Et toute la journée d'hier, on est resté à la banque jusqu'à 17h30 pour dire que non, le gouverneur n'a pas autorisé qu'on débloque cet argent.
La Banque centrale du Congo.
La Banque centrale du Congo. Alors vous voyez que ça désoriente un peu le médecin. Il y avait déjà des médecins qui étaient descendus au lieu de la paye. Et bon, c'est un peu décourageant, mais en toute sincérité, nous pouvons dire aux médecins qu'ils patientent un tout petit peu. Peut-être les banques vont ouvrir vers le 5, ça poserait, et le 5 janvier, ça poserait un problème. Et nous estimons que nous avons tous les documents pour retirer cet argent. C'est question de temps, à moins qu'on nous dise qu'il y a une autre décision, mais le document officiel qui est là nous dit que nous pouvons retirer cet argent dès que les opérations bancaires reprendront à la Banque centrale.
Ok, puis action, nous continuons à parler de cette question qui défraie la chronique, la grève des médecins du secteur public qui continue parce que le gouvernement n'a toujours pas donné de réponse. Nous sommes en studio maintenant avec Dr Mankoy, secrétaire exécutif provincial du syndicat national des médecins pour la ville de Kinshasa. Il est aussi médecin traitant au niveau de l'hôpital général de Kinshasa. En dernière nouvelle, ils ont reçu toutes les autorisations possibles au niveau de l'ordonnateur du gouvernement afin que les fonds puissent être libérés par la Banque centrale du Congo. Et c'est à ce niveau que les fonds n'ont pas été libérés. Ils attendaient jusqu'hier. Moment de frustration pour certains médecins qui étaient déjà présents sur les lieux de paie lorsque la nouvelle est tombée. C'était le désarroi. Docteur Mankoy, est-ce que vous avez réussi à savoir pourquoi la Banque centrale du Congo n'a pas libéré les fonds?
Bon, nous n'avons pas eu une réponse de la part de la haute autorité de la Banque centrale du Congo parce que nous ne sommes pas entrés individuellement en contact avec lui, avec elle. Mais en fait, c'était Madame la ministre et son vice-ministre qui ont intervenu auprès du vice-président Zaïd Ngoma. Et comme il est en voyage en Bandaka, il a contacté son homologue, son excellence Jean-Pierre Bemba. Et Jean-Pierre Bemba a donné des instructions au Trésor public et à la Banque centrale pour libérer ces fonds pour nous payer. Mais en fait, nous ne comprenons pas ce qui s'est passé. Nous nous faisons seulement des réflexions pour dire que, comme nous sommes à la fin de l'année, la Banque centrale a ses principes et les médecins sont des intellectuels. Ils doivent savoir aussi que la Banque centrale a une certaine autonomie vis-à-vis du gouvernement. Et je pense que, tenant compte de ces principes-là, que peut-être le gouverneur de la banque n'a pas pu libérer les fonds parce que déjà hier, ils ont clôturé leur année civile et ils faisaient déjà des manifestations, des présentations de vœux.
Mais je vais soumettre à votre appréciation la réaction d'un auditeur qui vient de nous appeler de Lubumbashi. Il s'appelle Pierrot Kamoy. Voilà, il réagit de cette façon-ci. Je cite, les autorités qui sont chargées de signer ces papiers sont en train de se moquer de la population et de ces pauvres médecins. Ce sont ses propres termes. Comme ils savent où faire soigner les leurs, il évoque les autorités, ils ne veulent pas répondre pendant qu'il y a des gens qui meurent à cause d'eux. Comment réagissez-vous à ça?
Oui, je remercie Pierrot. Je ne considère pas ça comme une question, je considère que ça c'est son point de vue. Mm-hmm. Et ce point de vue, c'est le point de vue aussi de médecin. Je crois que, vous savez, ces dossiers traînent depuis le 19 novembre 2003, donc c'est plus d'une année. Et je crois que la solution devrait déjà se trouver si les autorités avaient donné un peu du sérieux à ces dossiers. C'est tout à fait évident. Mais qu'on ne se trompe pas, hein, nous tous nous sommes de potentiels malades, et dans de grandes villes nous sommes des potentiels accidentés. Mmh. Et que si on n'a pas de la chance, on ne peut pas échapper, parce que parfois il y a des malades qu'on ne peut pas mettre dans l'avion pour les déplacer en Afrique du Sud ou en Europe. Ça on doit le savoir, et il n'y a pas que la famille proche. Nous avons en Afrique des familles élargies, et je crois que nous allons en tenir compte. Ça, c'est de la part de l'autorité. Et vous allez constater que ça perd le sens même du naturel. Parce que si on prenait cette décision pendant tout le temps des négociations, ça ne pouvait. Ici, ça prend le sens des bras de fer. On doit donner aux médecins parce qu'ils ont grévé. On doit faire ceci parce qu'ils ont grévé. C'est comme si les autorités ne prennent pas leurs responsabilités à cœur.
Ce n'est pas une faveur, c'est un droit des médecins.
Non, c'est un droit, mais l'autorité qui nous gère devrait le faire quand on a déposé le cahier de charge. Il ne devrait pas attendre qu'il y ait grève. Quand nous allons parler de l'évolution de ces dossiers, vous allez constater. Le 19 novembre, on dépose un dossier. On ne réagit pas. On arrive au mois d'avril, le médecin...
Novembre 2003.
En avril 2004, le médecin décide de faire ce qu'on a proclamé, trois journées médecins sans médecin. C'est en ce moment-là que le gouvernement réagit et on crée une commission pour traiter du statut. Le statut a été validé le 21 avril.
2004.
Du 21 avril jusqu'au mois d'octobre, pas de réaction de la part du gouvernement. Malgré les correspondances, malgré les demandes d'audience, on n'y fait pas attention.
Docteur Mankoy, lorsque vous dites qu'en avril 2004, le statut a été validé, est-ce que ça veut dire qu'il a été signé par toutes les parties et que donc il devait être exécuté?
Non. L'Ordre des médecins et les syndicats des médecins ont proposé un statut. Mm-hmm. Maintenant, au niveau du gouvernement, on a créé une commission interministérielle qui a siégé pour traiter de ce statut. Et effectivement, nous ne sommes pas des juristes. Il fallait donner au statut la forme juridique de tout le statut qui existe. Et on a fait ce travail, on a terminé. C'est comme ça que le ministre de la Santé publique de l'époque, le docteur Yagisitoul, a dit à poser sa signature et présenter ce statut à la commission socio-culturelle. C'est ce que nous disons validé. Mmh. Maintenant, le statut a été adopté au niveau de la commission socio-culturelle. Maintenant, il fallait qu'on discute de ce statut au niveau du conseil des ministres pour que l'autorité décide. Est-ce que ce serait une loi? Est-ce qu'on signera un décret-loi? Est-ce que ce serait un décret? C'est ça le vrai problème.
C'est à ce niveau que ça traîne aussi.
À ce niveau, ça
au niveau du gouvernement, oui. Et en attendant, il a été décidé de donner une prime, oui. Le temps que les statuts soient finalement, si vous voulez, promulgués sous forme de ordonnance-loi. Ou, à votre avis, qu'est-ce qui fait traîner cette évolution?
Bon, le statut a été traité au niveau du Conseil des ministres. Oh. Au niveau du Conseil des ministres, il y a certaines excellences qui avaient fait des amendements. Il y a peut-être 6 ou 8. Mais ça fait plus d'un mois que nous attendons ces amendements. Parce que les amendements, ils doivent les faire par écrit. Et nous devons réagir en tenant compte de leurs amendements. À ces jours, nous n'avons pas encore une réaction de ces excellences qui ont fait des amendements. On nous dit même que d'autres oublient qu'ils avaient fait des amendements. Et c'est comme ça que les dossiers traînent. Et le vice-président Zaïd Ngoma, en recevant la délégation de médecins,
il n'y a pas longtemps,
a trouvé une solution pour dire, bon, comme le statut, le principe de donner aux médecins un statut spécifique a été accepté par le gouvernement, le gouvernement a accepté aussi de donner une prime aux médecins. je crois que c'est la prime de fonction spéciale, la prime de risque, alors vous allez d'abord toucher cette prime-là, ce serait déjà un acte pour dire que nous avons déjà accepté ce statut-là. Et bon, nous étions en négociation au mois d'octobre. Donc, la prime devait être payée pour le mois d'octobre, novembre et décembre. Et on devrait maintenant mettre ça dans le budget 2005 pour que ça soit payé mensuellement. C'est sûr que nous sommes jusque-là.
Jusqu'au jour d'aujourd'hui, oui. Où la prime n'a pas été libérée hier par la Banque Centrale du Congo. Une information peut-être pour tous ceux qui nous suivent, de par le monde entier, c'est par là qu'on va clôturer notre entretien. Docteur Mankoy, combien touche un médecin actuellement?
Bon, actuellement, le traitement du jeune médecin qu'on engage, c'est 6400 francs congolais.
6400 francs congolais, à peu près en dollars, c'est autour de moins de 20 dollars en tout cas.
Moins de 20 dollars.
Autour de 15, moins de 15 dollars.
Moins de 15 dollars. Alors, il semblerait même que le médecin qui touche un peu mieux, ce sont les médecins des grandes villes, Kinshasa et Lubumbashi, parce qu'à Kinshasa et Lubumbashi, on donne les frais de transport, mais les confrères qui sont à l'intérieur, et dans d'autres villes, ils touchent exactement les 6400 quelques francs.
On peut dire que cette action ne concerne pas seulement les médecins de Kinshasa, mais c'est une action qui concerne tous les médecins de la République démocratique du Congo qui bénéficieront de ces statuts.
Oui, le statut, ou bien le syndicat national de médecins, c'est pour tous les médecins. Ici, parce que nous avons un problème spécifique, c'est pour les services publics de l'État. Mmh. Tous les médecins qui émargent de services publics de l'État. Le statut concerne les médecins des services publics de l'État. Donc, tous les médecins qui travaillent dans les services publics de l'État en République démocratique du Congo.
Mais voilà, docteur Mankoy, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le secrétaire exécutif provincial du syndicat national des médecins pour la ville de Kinshasa. Vous prestez comme médecin à l'hôpital général de Kinshasa. Malgré tout ce qui s'est passé, permettez-moi quand même de vous souhaiter bonne année 2005 et surtout que votre lutte aboutisse le plus rapidement possible pour le bien-être non seulement social des médecins, mais aussi pour vous permettre d'améliorer la qualité des soins que vous devez dispenser aux malades.
Oui, nous vous remercions en toute sincérité et nous vous retournons le vœu de l'an 2005. Nous espérons que cette année sera un bon an.
Merci beaucoup, docteur. Demain sera-t-il jour de terre promise pour ceux qui nous suivent, particulièrement pour les médecins qui continuent à se battre en vue d'obtenir une amélioration de leurs conditions sociales. En tout cas, on se serre le doigt, on leur souhaite, parce que tout le monde, vous venez de l'entendre, docteur Mankoy vient de nous le rappeler, chacun de nous est un malade potentiel. Et parfois, lorsqu'on se plaint de certains services au niveau des hôpitaux tels que ça se déroule, on ne se pose pas la question dans quelles conditions travaillent ceux-là qui sauvent nos vies, ceux-là qui nous rallongent la vie, si vous voulez. Eh bien, voici une triste réalité, un jeune médecin qui touche moins de 15 dollars américains par mois, encore que ce n'est pas régulier. Comment, dans ces conditions, un médecin peut vraiment mieux soigner les gens? Malgré le serment d'Hippocrate, c'est vrai, et c'est d'ailleurs grâce à ce serment d'Hippocrate que des médecins ont organisé un service minimum dans les hôpitaux. En tout cas, merci beaucoup à tous les médecins qui nous écoutent et avec qui nous sommes des cœurs. Nous sommes des cœurs avec eux pour continuer à appuyer la lutte qu'ils mènent pour une amélioration de leurs conditions sociales.
Okapi à Lubumbashi sur 95.8 FM.
Après des années sombres au jardin zoologique de Lubumbashi, l'aurore pointe à l'horizon. Ce jardin zoologique a été créé en 1932. Malheureusement, aujourd'hui, il a perdu tout ce qu'il avait et ce qui le distinguait des autres centres d'attraction à Lubumbashi. Ce lieu touristique accueillait beaucoup de visiteurs qui venaient contempler les merveilles de la nature. Le jardin zoologique de Lubumbashi est installé au sud de la ville. Il a vu petit à petit sa population animale diminuer. Il est devenu par la suite un raccourci pour les populations qui relient les quartiers Lido Golf et les centres-villes. Par moments, ce lieu devient une zone d'insécurité. Ici commet beaucoup de cas de viol, de rafles de biens de ceux qui passent pour rejoindre ces lieux. Depuis un certain temps, certaines personnes se sont mobilisées pour redorer le blason terni de ce site touristique à Lubumbashi. Pour plus de détails, nous joignons à Lubumbashi notre confrère Jean Gandou. Jean Gandou, bonjour.
Bonjour Walter Mbayirindi.
Dites-nous comment se présente actuellement aujourd'hui ce jardin zoologique de Lubumbashi.
Walter, situé au sud de la ville de Lubumbashi, le jardin zoologique est une grande étendue. Il a une partie zoologique et une partie botanique. La partie zoologique a vu la population animale disparaître par le fait du braconnage et aussi par le fait de développement de cette population pour d'autres destinations alternes.
Est-ce que vous pouvez nous parler d'abord de la partie botanique de ce zoo? Est-ce que c'est certaines espèces de plantes ont aussi été emportées ou ont péri, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour la partie zoologique?
Walter, la partie botanique est devenue pratiquement une broussaille. Et dans cette broussaille, on peut trouver des reptiles et autres animaux. Pire encore, cette partie a été envahie par des concessions. Voire certaines personnes commencent à y cultiver, Walter.
Bon, revenons alors au zoo, parce que là, c'est la violation du territoire, du zoo qui est entamé par des champs. Mais pour revenir au zoo, comment est-ce que tu peux nous décrire, ne fût-ce que la population animale restante?
L'essentiel de la population animale avait été enlevée. Pour l'heure, il y a des hommes de bonne volonté qui viennent de s'investir dans la réhabilitation de ce zoo. Un de ces bienfaiteurs, M. Stéphane Larouche, dit qu'il s'est investi pour aider le jardin zoologique à retrouver sa beauté d'antan, Walter.
Qu'est-ce qui a été fait depuis que certaines personnes se sont mobilisées pour redorer le jardin zoologique de Lubumbashi?
Certaines espèces ont été remises aux responsables de ce zoo. En l'occurrence, les marabouts, les lapins, le perroquet, les paons, le canard, le poule, les tortues, etc. Avec cette aide, la population animale s'est accrue. Les centres attractifs sont aménagés et les lieux deviennent ainsi fréquentables.
On le sait, Jean Gandou, peupler un jardin zoologique, c'est bien, mais assurer de la nourriture à ces animaux, c'est mieux. Est-ce qu'il y a des dispositions qui ont été prises pour ne pas laisser les animaux, les espèces animales mourir de faim?
Excellente question, Walter. Les bienfaiteurs de ces zoos sont conscients de cette problématique. Il y a certaines maisons commerciales qui se sont investies pour donner de temps à autre de la nourriture aux animaux. Cela a déjà commencé, nous espérons que ça va continuer.
Mais alors, si ça continue, est-ce qu'on peut savoir en contrepartie à quoi s'attendent ces bénéficiaires? Parfois, on se demande pourquoi on peut poser telle ou telle autre traite, Jean Gandou. Est-ce que vous avez cherché à savoir?
Selon les bienfaiteurs, c'est simplement l'amour des animaux. Voilà qui justifie le fait que ceci ne s'empêche pas d'acheter les animaux pour les comptes du jardin zoologique de Lubumbashi. Ils veulent simplement offrir à la population de la capitale du cuivre un lieu tout à fait touristique et convenable.
Mais vous nous avez dit tout à l'heure, on le sait d'ailleurs, pour ceux qui vivent à Lubumbashi, que ce jardin zoologique était devenu un raccourci pour les piétons qui veulent joindre le centre-ville ou le quartier, Lido Golf. Pourquoi avoir peuplé ce jardin quand c'était devenu un lieu d'attraction et un passage pour les autres?
Walter, les efforts avaient été entrepris par l'ancien vice-gouverneur Jacques Muyomba, pour ne pas le citer, pour reconstruire la clôture du jardin zoologique. En dehors du fait que ce lieu soit un raccourci, il est également un haut lieu de l'insécurité où se commettent vols, viols et j'en passe de pire. À ce sujet, Walter, suivant le témoignage de cet habitant du quartier Lido Golf.
Moi, j'habite le quartier Lido Golf et chaque fois quand je n'ai pas l'argent de transport, je suis obligé de marcher à pied pour atteindre le centre-ville. Et pour le raccourci, je suis obligé de passer par les eaux. Mais qu'est-ce que nous constatons, surtout pendant la saison des pluies? Nous constatons que quand les herbes poussent exagérément, il y a des gens, les bandits qui se cachent là-dedans. Et vers les heures du soir, là, ils attaquent surtout les femmes, ils violent, ils ravissent leurs sacs et ils font n'importe quoi sur nos femmes. Alors à ce moment-là, moi-même j'ai vécu, un jour, je venais, j'ai trouvé une femme qui est venue, heureusement que je suis intervenu parce que il fallait qu'elle soit violée et ravie, on allait ravir tout ce qu'elle possédait. Alors, cette situation, c'est vraiment précaire et c'est vraiment une situation sécuritaire vraiment préoccupante.
Jean Grindot vient d'entendre ce témoignage d'un habitant du quartier Lido. Qu'est-ce qui explique que l'endroit, la zone du zoo de Lubumbashi soit devenue un haut lieu d'insécurité?
Walter, une partie du zoo est devenue un sanctuaire de l'insécurité, du fait que, comme tu l'as si bien dit, que certains utilisent ce lieu comme un raccourci, soit pour atteindre le quartier Lido Golf, soit pour aller au centre-ville. Cet habitant nous donne également, selon lui, les raisons qui justifient ces actes d'insécurité. Suivons-le.
Par rapport à cette brousse qui a poussé, je demanderai aux gens qui gèrent le zoo de couper de temps en temps, surtout pendant la saison de pluie. Les élèves peuvent découper de temps en temps pour éviter tout ce qu'il y a comme risque. Le zoo doit vraiment être un lieu de tourisme à proprement parler, parce que présentement nous constatons que ça n'intéresse même pas les gens apparemment, donc les gens ne s'intéressent plus. Alors il faut que les gens et les autorités du zoo y mettent vraiment du sérieux et prennent beaucoup d'animaux et ils mettent là-bas pour que ce soit vraiment un lieu touristique.
Voilà, parmi les causes de l'insécurité par là, on a compris que la clôture avait été, si vous voulez, endommagée, et puis c'est devenu un passage avec la végétation qui monte, ça fait des touffes d'herbe, des caches idéales pour les malfrats. Pouvez-vous nous dire, Jean Gandou, comment ce passage s'était frayé dans le zoo?
Il faut reconnaître qu'au zoo, il y a des gros arbres. Il y en a qui tombent d'eux-mêmes et il y en a qui sont abattus. Souvent, ce sont ces arbres qui démolissent le mur. Cependant, ce mur n'est pas toujours reconstruit. Il laisse ainsi le passage et les habitants trouvent cela comme une occasion pour passer par là et avec tout ce que cela comporte comme risque. Car il peut y avoir des reptiles, de primates ou autres animaux qui peuvent toujours inquiéter la population. Pour rappel, Walter, il y a quelques années, un garçon de près de 20 ans avait été mangé ou croqué par le crocodile du zoo et tout le monde le sait. Et d'ailleurs, j'en suis un des témoins. Et Walter, c'est triste comme situation.
Mais alors, qu'est-ce qui peut être fait pour mettre fin à ces actes? D'abord, reconstruire le mur et poser bien d'autres actions en vue de sauvegarder le zoo Jean Gandou et de sauver les habitants des risques de tomber entre les mains, les mailles, si vous voulez, des bandits.
Ben, c'est bien simple. Je pense que nous allons d'abord suivre cet homme qui a été victime de ces actes, nous dire ce qu'il pense de la situation sécuritaire.
Il faut construire le mur. Le mur, c'est ce que je venais de dire, il faut construire le mur. Si le mur est construit, il n'y a pas de raccourci possible. Je voudrais demander aux autorités pour construire le mur, parce que le mur est vraiment inachevé. Alors il fallait construire ce mur-là et que les eaux soient vraiment un lieu touristique pour ne pas permettre aux gens d'utiliser ça comme un raccourci. Je voudrais que ce soit vraiment un lieu touristique bien arrangé, pour que ça soit vraiment intéressant.
Jean Gandou, pensez-vous que si le mur du zoo est construit, les différentes tracasseries prendront fin?
Je crois que c'est l'une des solutions, car cela empêcherait les habitants de passer par le zoo pour atteindre l'un ou l'autre coin. Et si on pouvait y placer également les gardes, je pense que tous les malfrats qui s'y cachent vont disparaître. Et le zoo n'aura qu'une seule entrée officielle, et tout celui qui voudra s'y rendre passera par la grande porte et se fera identifier Walter.
Avez-vous quand même posé la question à quelques représentants de la police, parce que la mission de la police est entre autres sécuriser les personnes et leurs biens, lorsqu'ils sont au courant qu'il y a beaucoup d'actes de vandalisme qui se déroulent du côté du zoo? Est-ce qu'ils ont pris quelques dispositions par rapport à ça?
Walter, dans le cadre de l'opération Passoco, entendez par là opération Attention, une grande campagne est menée pour décourager tous les délinquants. L'avenir nous en dira un peu plus. Et d'ailleurs, il y a une patrouille qui s'est faite pour décourager toutes ces différentes personnes qui se cachent au zoo pour commettre telle ou telle infraction.
On a évoqué les fréquentes attaques des bandits sur des populations civiles qui passent par le zoo de Lubumbashi. Est-ce que il vous est possible de nous dire peut-être quelques chiffres ou des données statistiques des personnes qui ont été victimes de ces actes de vandalisme?
Walter, le chiffre est noir et grand, car il est difficile de voir une fille ou une femme passer et dire qu'elle a été violée. Il y a certains cas qui sont tout simplement passés sous silence. Il n'y a que de petites menaces qui sont portées au grand jour, ainsi que certains cas de vol, Walter.
Ben voilà, en parlant de viol, les acteurs humanitaires et les professionnels de santé ont toujours recommandé que lorsqu'une personne est victime de viol, elle doit être à même de dépasser ce qu'elle a subi et se présenter devant un poste de santé pour éviter notamment des risques de maladies ou infections sexuellement transmissibles, le VIH-Sida et d'autres complications qui peuvent en survenir. Plus tôt c'est fait, mieux c'est, parce qu'on est vite pris en charge et sauvé. J'ai cité une recommandation des acteurs humanitaires qui s'occupent notamment des femmes victimes des violences sexuelles. Cette parenthèse dite, Jean Gandou, l'occasion m'arrive maintenant de vous dire merci pour toutes ces informations. Vous souhaitez bonne fête, des bonnes années et rendez-vous l'année prochaine, en 2005.
Merci beaucoup Alter, et je te réciproque tous tes voeux, et je pense que l'année prochaine on se fera en parfaite forme pour le bien de tous nos auditeurs.
Super, merci de continuer à nous écouter à Lubumbashi dans la bande FM 95.8. Dans les eaux de Lubumbashi, on a dit, nous avons appris que la population animale a sensiblement diminué. Pour boucler ce commentaire, notre dernier invité de l'année, c'est Monsieur Jean-Oscar Sangouza. Bonjour.
Bonjour monsieur, bonjour.
Vous êtes le bourgmestre de la commune de Lubumbashi. La place du zoo c'est devenu un lieu d'insécurité. Est-ce que à votre niveau il y a des mesures qui sont prises pour sécuriser les populations?
Oui, exactement. En tant que responsable d'encadrement de la population, les mesures sont prises. C'est depuis déjà la fête de Noël que les dispositions ont été prises. Jusqu'hier, il y a eu une très grande réunion de sécurité au niveau de toute la ville. Et à mon niveau, j'ai pris les dispositions avec tous les collaborateurs de la commune de Lubumbashi, donc chef de quartier et les services spécialisés de sécurité. Donc je veux vous dire que pour l'instant c'est calme et que la population doit vaguer paisiblement à ses occupations et doit être assurée que la sécurité, les mesures de sécurité sont prises à tous les niveaux de la commune de Lubumbashi. Donc, dans les différents quartiers, les quartiers fonctionnent 24 heures sur 24 heures. Et là, nous demandons aussi, donc, pour que ce soit très efficace, les concours de toute la population. Donc, la sécurité est le problème de tout le monde. Et voilà pourquoi nous demandons encore une fois à notre population d'être vigilante, pour décourager les mauvais esprits qui peuvent perturber les festivités de fin d'année. Donc c'est pour vous dire que nous avons pris toutes les dispositions pour que la population soit sécurisée.
Monsieur le bourgmestre, la solution durable autour du zoo de Lubumbashi serait de réhabiliter le zoo dans sa mission première, notamment qu'il devienne plutôt un endroit touristique, réhabiliter la clôture. Est-ce que vous y pensez?
Oui, exactement. Donc, c'est ce que je venais de dire. Donc, tous les coins, on a pris les dispositions pour que tous les coins de la commune soient sécurisés. Même du côté des zones là où vous parlez, c'est du côté des quartiers Lido de Golf. Je crois qu'il y a l'officier qui dirige les sous-commissariats de ce côté-là. Il a été instruit pour que la sécurité puisse régner dans tous les environs des choses du côté zoo.
Mais je parle, monsieur le bourgmestre, de la solution durable qui serait celle de réhabiliter le zoo dans sa mission du zoo, c'est-à-dire remonter cette clôture, repeupler le zoo et que les gens viennent seulement pour des raisons touristiques.
Oui, je crois qu'à l'avenir, ça sera fait parce que ce problème ne se situe pas encore à notre niveau. Et c'est au niveau, je crois, c'est vers notre hiérarchie. Mais prochainement, donc dans l'avenir, ça sera fait. Mais en attendant, nous n'allons pas quand même croiser les bras. Nous devons prendre des mesures pour que ce côté-là ça soit sécurisé. Donc voilà pourquoi j'ai demandé que la sécurité est l'affaire de tout le monde. Donc la population doit appuyer la police par dénoncer les malfaiteurs, par les informations.
Comment, à quel numéro la population peut appeler le bourgmestre de la commune ou le chef de la police au niveau communal?
Oui, je crois que la population de la commune de Lubumbashi est bien informée. Donc tout le monde est au courant, donc ils connaissent mon numéro. Donc c'est le 970-28-515. Ça, c'est mon numéro qui est 24 heures sur 24, donc je suis ouvert, disponible aussi.
Voilà. S'il y a des pépins au niveau de la commune de Lubumbashi, appelez M. le bourgmestre et il enverra une police pour vous sécuriser. M. Jean-Oscar Sangouza, on a des petits problèmes de liaison téléphonique, on est obligé de couper. Merci beaucoup d'avoir accepté de donner ces assurances à vos administrés. Nous vous souhaitons de passer d'excellentes fêtes et de bonnes années.
Merci pareillement.
Merci beaucoup. Toute l'équipe de Capi Action me charge de vous dire merci pour votre fidélité, merci pour votre soutien et surtout merci pour votre participation à ce magazine. Et toute l'équipe se réjouit de vous retrouver l'année prochaine, à 2005, pour de nouvelles aventures dans vos vies.